Merci bien, Monsieur le Président. Merci pour l'introduction. Effectivement, on va traiter un peu de droit contractuel en lien avec la période notamment de semi-confinement et les conséquences qui en découlent. Durant, ou plutôt à la suite aussi de cette période du mois de mars-avril et mai, le Conseil fédéral a pris de nombreuses décisions au travers, on l'a déjà dit, de l'ordonnance de COVID-19, en se fondant notamment sur le droit de nécessité et la loi sur les épidémies. Et pourtant, il a expressément refusé d'intervenir pour régler les problèmes liés à l'équilibre économique entre les parties au contrat. Sa philosophie était, et encore d'ailleurs, celle selon laquelle il s'agit d'affaires entre privés qui doivent être réglées entre eux selon leurs dispositions contractuelles et les instruments à disposition. On pense à la force majeure, au régime de l'imprévision, au juste motif de résiliation ou encore au problème du défaut de la chose louée. Au sortir de la crise, je m'étais permis de lancer un appel pour un droit contractuel extraordinaire qui tendrait à résoudre de manière souple, ou j'allais dire de manière aussi souple que nécessaire, mais aussi collective que possible, les problèmes similaires afin d'éviter un engorgement des tribunaux. En effet, les suspensions des audiences pendant plusieurs mois avaient entraîné, et je pense ont encore entraîné, des retards très importants dans certains cantons, même si les acteurs de la justice ont bien sûr redoublé d'efforts pour reprendre la main. Manifestement, les affaires pénales ou celles du droit de la famille ou encore le droit des poursuites et faillites figurent en bonne place. En revanche, les questions complexes du droit contractuel, en apparence moins urgentes, risquent bien de devoir attendre leur tour beaucoup plus longtemps. En matière de baux commerciaux, par exemple, divers cantons ont alors soutenu des initiatives de droit souple, Genève, Vaud, Fribourg. Je ne vais pas m'y attarder puisque Maître Fournier reviendra sur cette question dans une présentation ultérieure. La question plus fondamentale est toutefois celle de savoir si le droit actuel suffit à répondre aux problèmes liés à une pandémie aux conséquences multiples et diverses, ou s'il faut envisager, en droit privé bien sûr, un régime de droit plus souple qui puisse régler aussi largement que possible toutes ces difficultés. Alors je vais commencer par un état des lieux et puis dans un deuxième temps, j'esquisserai une réponse de droit, j'allais dire, semi-souple. L'état des lieux d'abord. On peut commencer peut-être par deux affirmations. La première, c'est celle qui consiste à dire que le droit actuel a déjà servi pour des situations analogues et ça s'est bien passé. Cette affirmation revient finalement à considérer que les régimes d'impossibilité, d'imprévision ou encore de juste motif sont autant d'institutions qui ont vu le jour lors de difficultés économiques à large échelle, si l'on pense par exemple à la Grande Dépression des années 20 ou de la fin des années 20, qui a permis notamment de mettre au goût du jour le Wegfall der Geschäftsgrundlage en Allemagne ou certains éléments de ce qu'on appelle en droit suisse la clausula rebus sic stantibus, ou alors la crise du canal de Suez dans les années 56-57, qui ont vu l'application, notamment en Angleterre et aux États-Unis, de ce qu'on appelle la hardship ou impracticability à large échelle. Et ça semble avoir relativement bien fonctionné. Donc, le droit dur pourrait dès lors s'appliquer, puisqu'il a fait ses preuves par le passé, même pour des crises mondiales. Mais évidemment, à chaque fois, il y avait la question centrale du caractère prévisible ou non de l'événement, de ses effets sur l'aptitude à fournir une prestation dans un contrat bien spécifique. Puis il y a une deuxième affirmation. La situation contractuelle contemporaine a beaucoup changé depuis cette époque. L'économie contemporaine a changé depuis la mise en place de modèles contractuels du début du siècle, puisqu'aujourd'hui, on pense d'abord à des contrats de masse. C'est devenu le quotidien de chaque consommateur, mais aussi de beaucoup d'entreprises. On a un régime de conditions générales qui a supplanté la plupart des clauses individuelles négociées. Alors, le professeur Flückiger mentionnait le droit dispositif, mais aujourd'hui, j'allais presque dire que le droit dispositif est supplanté par un régime de conditions générales. Et donc, chaque problème contractuel n'est plus un problème individuel, mais est devenu un problème de masse, un problème de groupe et de secteur économique. Par exemple, la question de savoir quels sont les effets de la pandémie du COVID-19 sur les contrats de fitness en Suisse dépend de situations et de décisions similaires, même si à chaque fois un petit peu différentes, puisque ces fitness ont des conditions cadres qui varient d'une région à l'autre, d'un contrat à l'autre. Puis le deuxième aspect, c'est la perte de granularité de l'analyse. Plus que l'analogie entre les cas, il y a aussi leur interconnectivité qui impose d'abandonner peut-être l'idée d'une approche granulaire du droit dur, ou de droit dur plutôt. Chaque individu, chaque entité peut être touchée plusieurs fois, tantôt comme créancier d'une prestation, tantôt comme débiteur d'une autre, sans d'ailleurs que ces deux éléments soient fonctionnellement reliés. On pense à une entreprise qui doit fermer des chantiers, n'a plus les moyens de payer ses employés ou les loyers de ses locaux, mais elle entend maintenir les revenus de ses parcs immobiliers, notamment en lien avec sa fondation de prévoyance pour le personnel, par exemple. C'est la raison pour laquelle un événement aussi systémique que la pandémie du COVID-19 peut justifier, à mon sens, une solution, elle aussi, systémique. Il vaut ainsi la peine d'approcher les problèmes de manière plus souple et plus collective, peut-être, et de parler, peut-être, avec le professeur Williamson, qui a utilisé ce terme déjà dans les années 90, 1990, de force majeure sociale ou, je dirais même, de force majeure systémique. Alors, les esquisses d'une réponse de droit semi-souple. La question est finalement celle de savoir si l'on peut supplanter ces règles de droit rigide, de droit dur du contrat, par un mode de résolution des différends qui soit plus souple, ça ce serait peut-être l'approche procédurale souple, avec un contenu aussi plus souple. Et je vais reprendre ici quelques idées que j'ai développées dans un article paru à la revue de droit suisse consacrée spécifiquement à la pandémie et au droit. Mais on l'a vu aussi, il y a actuellement des velléités de resolidifier le droit souple et donc on est ici toujours face à une certaine tension. Pourquoi? Parce que le droit souple est tributaire des forces en présence. En matière contractuelle en particulier, les forces en présence sont souvent inégales. C'est la raison pour laquelle j'aimerais proposer une réponse extraordinaire à deux niveaux. D'abord, une réponse standardisée sur le fond, de nature souple, et puis ensuite une mise en œuvre collective et de groupe de nature semi-rigide. Alors, la réponse standardisée sur le fond, d'abord, pardon, elle procède d'une approche inspirée par deux aspects. D'abord, un devoir de renégociation sérieux des contrats, et puis d'autre part, des solutions plus solidaires dans leur contenu. Le devoir de renégociation sérieux d'abord. Il est aujourd'hui admis que l'article 2, alinéa 1 du Code civil impose que les parties se comportent de bonne foi dans leurs relations contractuelles. On ne peut plus envisager dès lors que le contrat s'applique sans modification lorsque des situations se produisent et lorsque ces situations ont finalement une répercussion systémique. La bonne foi impose aux parties d'envisager leurs relations contractuelles dans une perspective dynamique. C'est d'ailleurs ce qu'a relevé déjà dans les années 70 Ian McNeil, qui a développé la notion de relational contract, de contrat relationnel, dont la force normative est le fruit d'un processus évolutif et non pas arrêté une fois pour toutes à la conclusion du contrat. Cette idée de relationnel, de contrat relationnel, finalement, fonde, elle aussi, la justification d'un devoir de renégociation, devoir de renégociation que l'on trouve dans de nombreux principes internationaux dont je passe ici les références. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette solution dynamique du contrat. Le contrat n'est pas un accord une fois pour toutes, mais il est ici en constant mouvement et la bonne foi est le moteur et la souplesse qui permet à ce contrat d'évoluer. C'est évidemment pas nouveau. Il suffit de penser déjà au droit romain où on avait des situations similaires, notamment pour les fermiers qui, confrontés à l'absence de récolte due à la sécheresse, pouvaient obtenir la remise du fermage. Une remise totale ou partielle du fermage qui était considérée comme une quasi-transaction. Comme une transaction, mais une transaction non pas définitive, une transaction dynamique, dans la mesure où, si l'année suivante ou les années ultérieures, il y avait tout d'un coup de très bonnes récoltes, eh bien, le propriétaire bailleur avait le droit d'obtenir à nouveau une partie de la remise de fermage qu'il avait octroyée lors de la période de sécheresse. En quelque sorte, un accord, une transaction dans la durée, une transaction dynamique, ce qui a d'ailleurs fait dire à un juriste romain du IIe siècle après Jésus-Christ, Gaius, pour ceux qui ont quelques souvenirs de droit romain, qu'il s'agissait d'un quasi-contrat de société, une quasi-societas. C'est donc là aussi un peu un contrat relationnel qui repose sur la bonne foi et sur une sorte de solidarité dynamique, une solidarité dans le temps. Deuxième aspect, c'est des solutions donc plus solidaires et des solutions de groupe. Renégocier et avoir le devoir de renégocier, c'est une bonne chose. Ça repose sur la bonne foi, très bien, mais il faut encore pouvoir le mettre en œuvre. Or, pour cela, ça n'est pas toujours simple. Pourquoi ? Parce que les contrats varient beaucoup. Et lors de la renégociation, il faudra tenir compte d'un certain nombre de critères. Là, je suis toujours dans l'aspect matériel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir exiger et quels sont les critères que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour cette renégociation ? Eh bien, moi, j'en vois un certain nombre. Il y a d'abord, par exemple, la nature plus ou moins aléatoire du contrat. Si vous êtes face à un contrat où le prix était très bas parce qu'on voulait une vente d'occasion ou une mise à disposition d'un endroit particulier dont les qualités n'étaient pas extraordinaires, ben, ce prix est peut-être en relation aussi avec le caractère plus ou moins aléatoire des prestations ou du contrat lui-même. Ensuite, vous avez bien sûr dans le contrat lui-même parfois une répartition des risques. Alors cette répartition, elle, dans ma conception, elle ne devrait pas être définitive, mais j'allais dire, ça peut être un nudge, ça peut être un point de départ, en tout cas un élément d'ancrage dans la négociation qu'on ne peut pas simplement obnubiler ou disons enlever de la table. Et puis finalement, cet aspect dynamique, une remise actuelle peut être liée à un avantage potentiel futur. Je ne vais pas aborder la question du droit de bail puisque Maître Fournier y reviendra, mais juste pour évoquer cette idée, on pourrait très bien imaginer la remise d'un loyer durant quelques mois, par exemple, maintenant, avec la possibilité d'un gain ultérieur en cas de reprise des activités, si c'est par exemple un bail commercial, et de dire qu'il y aurait un intérêt qui serait fixé sur les loyers ultérieurs, un intérêt supérieur lorsque ces intérêts et ces loyers sont dépendants, par exemple, du chiffre d'affaires. Donc, on pourrait avoir dans la durée une contrepartie, en quelque sorte, et donc un aspect relationnel et solidaire ici qui pourrait s'exprimer. Mais évidemment, il y a toujours des risques dans la négociation. C'est les risques d'abus d'une position contractuelle forte. Et là, l'article 2, alinéa 1, n'est guère utile parce qu'on a beau dire, mais si, pour reprendre mon exemple de l'abonnement de fitness, si en tant qu'utilisateur d'un fitness, j'ai payé mon abonnement annuel d'avance, eh bien, ma possibilité d'exiger une renégociation des conditions pour que l'on tienne compte du fait que je n'ai pas pu utiliser mon fitness pendant quelques mois, mais ma position n'est pas très forte, évidemment, puisque moi, je n'ai rien en main et le fitness a déjà touché l'argent pour quelques mois ou une année même entière. Et donc, il faut essayer de trouver un incentive, une manière d'amener malgré tout ces partenaires contractuels qui ont soit déjà des prestations pour le futur ou qui ont une position de force simplement dans la négociation à négocier. Comment le faire ? Eh bien là, j'ai l'impression qu'il faut faire appel à un peu de droit dur. Et j'aimerais fonder cela sur l'article 97, alinéa 1er de la Constitution fédérale qui pose le principe selon lequel la Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices. Alors pour l'instant, je parle du droit de la consommation, je viendrai encore au PME dans un instant. Le but de la disposition constitutionnelle est aussi de favoriser le pouvoir de négociation des consommateurs ou de prévoir des mesures pour contrebalancer l'absence de négociation. C'est ce qui a été fait, par exemple, en matière de clauses abusives et des conditions générales. L'article 8 de la loi contre la concurrence déloyale est une application de cet article 97 alinéa 1 de la Constitution. Ce qui veut dire que le Conseil fédéral, s'il entend respecter les exigences constitutionnelles de l'article 97, il doit mettre en place des règles impératives pour imposer la renégociation des contrats de consommation et imposer peut-être, j'y reviendrai encore, des renégociations de groupe. La situation n'est toutefois pas différente pour les contrats passés par des PME, par exemple, parce que là, les articles 95 et 96 de la Constitution ont pour but d'assurer le bon fonctionnement du marché. Or, on est tout à fait dans une situation où sans renégociation, sans prise en compte des aspects systémiques, eh bien, on peut avoir des dérapages du marché, des distorsions, et c'est la raison pour laquelle il y a ici un devoir de renégociation pour les PME qui reposerait aussi sur le marché et donc une obligation du Conseil fédéral de faire imposer ce respect. Alors, comment faire pour mettre en œuvre cela? À mon sens, eh bien, il faut une mise en œuvre collective. Et ça va être le deuxième et dernier point de mon intervention, une mise en œuvre collective ou de groupe de ce droit contractuel extraordinaire. D'abord, cette idée de négociation collective, elle n'est pas nouvelle. Vous l'avez peut-être vu dans l'avant-projet de modification du code de procédure civile. Le Conseil fédéral avait proposé, avant de le retirer du projet qui a été soumis au Parlement, avait proposé un système de transaction de groupe, où finalement les représentants d'intérêts collectifs pouvaient négocier ensemble des solutions, puis ensuite les mettre en œuvre pour chacun des contrats. Et finalement, cette idée n'est pas très loin de la négociation de conventions collectives de travail dont on connaît le mécanisme et qui fonctionne relativement bien. Là aussi, du droit souple finalement, d'une certaine manière, en matière de paix du travail ici en Suisse. Et donc, on pourrait imaginer de rendre obligatoire des négociations de groupe afin de trouver des solutions cadres aux problèmes du COVID-19. Ces négociations de groupe, elles reposeraient toutefois sur une coordination parce qu'il faut identifier quels sont les partenaires, j'allais dire sociaux, qui sont habilités à négocier de tels accords. Ces partenaires ne devraient pas être nécessairement des partenaires institutionnels ou institutionnalisés de manière générale, mais ça pourrait simplement être des organisations qui ont, par exemple, une représentativité suffisante d'un domaine, une association qui représente les fitness, par exemple. Deuxièmement, il faudrait que le champ d'application de l'accord puisse être suffisamment large. Si on a les fitness, ça me paraît être quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, le contenu de l'accord devrait refléter une certaine schématisation et c'est là que le SECO, par exemple, pourrait intervenir et c'est là que je vois du droit souple en coordonnant toutes ces négociations de groupe, d'abord par un devoir d'annonce au SECO, deuxièmement par la possibilité du SECO de mettre à disposition un médiateur COVID-19 qui pourrait ainsi suivre ces différentes négociations et utiliser les solutions innovantes dans un domaine, dans l'autre également. Et troisièmement, bien sûr, ou quatrièmement, bien sûr, la possibilité de communiquer et de rendre public l'accord final. On le sait très bien, lorsque on a un accord cadre, même s'il n'est pas obligatoire pour toutes les personnes concernées, eh bien, ça a un effet d'ancrage, ça a peut-être un effet de nudging et ça facilite dès lors la solution dans des contrats plus granulaires. L'idée, c'est donc pas de rendre nécessairement obligatoire cet accord cadre, mais de dire, ben voilà, on a déplacé le problème d'un problème individuel vers un problème collectif, et puis l'accord collectif devient un point d'ancrage pour trouver une solution au niveau individuel. Ça n'empêcherait pas une décision d'application individualisée, mais simplement, en cas de désaccord entre les parties, il devrait y avoir à ce moment-là, et c'est ça mon caractère semi-souple, il devrait avoir la possibilité d'exiger la mise en œuvre rapide de cet accord dans le cas particulier. Et ça, ça se fait au travers du juge de paix, par exemple, ou d'une autorité qui s'occupe des requêtes aux fins de conciliation, puisque ces instances ont la possibilité de proposer des solutions. Elles proposeraient ces solutions sur la base de ces accords de groupe. À la rigueur, comme pour les conventions collectives de travail, on pourrait imaginer de rendre applicable à l'ensemble d'un domaine certains accords souples, mais ça ne paraît même pas totalement nécessaire. Donc, en conclusion, je dirais que on pourrait envisager un droit souple en dépit de l'existence de règles de droit rigides dans les contrats. Il suffirait, un, de mettre en œuvre une obligation de renégociation qui existe. Que cette obligation de renégociation devrait être encadrée pour éviter les abus des pouvoirs, de pouvoirs contractuels trop importants par certains nudging. On pourrait imaginer, par exemple, que si on donne des montants à Suisse, pour prendre un exemple connu de tous, qu'on s'assure que Suisse règle aussi tous les contrats qui sont liés finalement à l'utilisation des avions. Et puis finalement, offrir ensuite un système de négociation de groupe supervisé par le SECO, mettre à disposition un médiateur COVID-19 et qui rende soit relativement obligatoire ces accords au travers de la mise en œuvre, notamment des juges qui s'occupent des requêtes aux fins de conciliation. Et je pense que par là, on aurait une mise en œuvre du droit souple qui serait relativement efficace. Voilà un peu le message que je voulais lancer en illustration de cette idée de droit souple en droit privé. Je vous remercie de votre attention.